Place Info.
Bonsoir à la une. Les nombreuses réactions après les tirs contre la mosquée de Bayonne. Le suspect est un ancien du Front National. Emmanuel Macron a confirmé pour sa part devant le CFCM vouloir combattre communautarisme et islamisme. Nous consacrerons une large part à ce dossier désinformé. Nous reviendrons également sur la grève à la SNCF et le report annoncé de la date butoir du Brexit et à l'instant les députés britanniques qui rejettent la tenue d'élections chez eux le 12 décembre. C'est dans les informés avec Mariam Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24, avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, et avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Vous publiez « Le progrès est-il dangereux ?» avec Catherine Bréchignac de l'Académie des sciences, un essai paru aux éditions Humaines Sciences. Nous sommes tous les quatre, bonsoir et bienvenue, ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Nombreuses réactions, je vous le disais à l'instant, jusqu'à celle du chef de l'État après la fusillade survenue devant la mosquée de Bayonne. Bonsoir à vous, Nathalie Bagdasarian.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, Nathalie, à France Bleu Bayonne. Vous suivez ces événements pour France Info. Qu'est-ce que l'on sait précisément ce soir avec vous, Nathalie, des faits qui se sont déroulés aujourd'hui?
Oui, on en sait un petit peu plus parce que les faits se reconstituent peu à peu. Au début, c'était très confus. Ce soir, ce que l'on sait, c'est que vers 15h15, une voiture est entrée sur le parking de la mosquée, s'est garée, une mosquée qui est très à l'abri des regards. Il faut les imaginer, derrière un grand centre commercial, il y a des arbres, une forêt. Il faut vraiment connaître précisément le passage pour y aller. Cet homme, donc, dont on sait désormais qu'il a 84 ans, vous l'avez dit, a arrêté sa voiture, a lancé tout de suite un engin incendiaire sur la porte principale, porte en bois de la mosquée, ce qui a immédiatement provoqué des flammes et la panique à l'intérieur. Il y avait une dizaine de personnes. Deux sont sorties, deux fidèles, âgés de 74 ans et 78 ans. L'homme leur a immédiatement tiré dessus. L'un était blessé au thorax. L'autre aurait tenté de lui échapper en essayant de se cacher derrière une voiture, mais le tireur a mis le feu à la voiture et visé la victime au bras. Il a aussitôt pris la fuite. Il a été arrêté donc 20 minutes après, à quelques kilomètres dans les sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanges, tout près de son domicile. C'était un ancien retraité de l'éducation nationale. Il a été candidat, et vous l'avez dit, ça aussi, Front National en 2015 aux élections départementales. Au moment de son arrestation, il avait un Smith & Wesson sur le siège du passager. Il a essayé de le brandir et les policiers ont pu l'arrêter. Et une bonbonne de gaz aussi a été retrouvée dans sa voiture.
En tout cas,
le maire de Bayonne, choqué. Jean-René Tégaray a donné une conférence de presse ce soir.
Merci à vous, Nathalie Bagdasarian de France Bleu Bayonne, pour ce récit extrêmement précis des événements qui se sont produits à la mosquée de Bayonne. Merci à vous. Jannick Halimi, je me tourne vers vous. Ces faits sont extrêmement graves.
Ah ben oui, bien sûr, parce que je faut attendre bien sûr l'enquête pour connaître de façon très précise la motivation de la personne qui a attaqué la mosquée. Mais enfin, je pense que là, c'est vraiment une précaution juridique basique. Mais je pense que quand on tire sur une mosquée, ça va sans dire. Il y a, enfin, vraisemblablement et plus que vraisemblablement, une motivation anti-musulmane, pardon, claire et nette.
Avec Laurent Nunez, le secrétaire d'État à la sécurité intérieure, qui se rend sur place ce soir. Et je me tourne vers vous également, Mariam Pirzadeh, le chef de l'État, qui a tweeté lui-même. Je condamne, dit-il, Emmanuel Macron, avec fermeté, l'attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne. J'adresse mes pensées aux victimes. La République ne tolérera jamais la haine. Tout sera mis en œuvre pour punir les auteurs et protéger nos compatriotes de confession musulmane. Je m'y engage. Sommes-nous dans, aujourd'hui, quelque chose de l'ordre du durcissement dans ce dossier lié au communautarisme et à l'islam radical, avec des réactions de terrain aujourd'hui, Mariam?
Oui, alors effectivement, Emmanuel Macron disait ce matin qu'on...
On l'attendait pour parler de l'islam et non de l'islamisme, et je pense qu'il faut faire ce distinguo qui malheureusement ces derniers temps se mélange. Impossible effectivement quand on voit cette information de ne pas penser à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, alors qui était beaucoup plus important parce qu'il y a eu 51 morts au mois de mars dernier. Et effectivement, beaucoup de voix se sont élevées ces derniers temps pour dire attention, ce débat sur l'islam, ce débat sur le voile, sur le communautarisme peut entraîner des actes isolés de personnes contre mosquées.
Maïa Daboulos, vous êtes d'accord avec ce que dit à l'instant Mariam Pirzadeh ?
Oui, tout à fait, j'irai même plus loin. La réalité est qu'il est attendu sur la question de la laïcité. Et or, aujourd'hui, on voit bien que la question de la laïcité se pose différemment pour 80% des Français, comme le montre une dernière étude IFOP publiée dans le journal du dimanche. 80% des Français estiment que la question de la laïcité se pose différemment en ce qui concerne l'islam. Donc il y a une véritable crispation autour de cette religion en particulier.
Arnaud Benedetti, je cite encore ses réactions aujourd'hui, celle de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter qui dit « À Bayonne, le harcèlement contre les musulmans a produit son effet, un fou attiré devant une mosquée. Maintenant, ça suffit, la responsabilité de chacun est engagée, les paroles publiques doivent cesser d'encourager la haine. » Arnaud Benedetti, est-ce que, au fond, c'est ce débat qui peut éventuellement déclencher ce type d'attaque, de réaction sur le terrain ?
Difficile de dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est le syndrome d'une société qui est fracturée, qui est fragmentée, qui s'est communautarisée aussi ces dernières années. C'est un fait. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout mélanger. Mais la réalité, c'est que le problème, c'est qu'Emmanuel Macron est obligé de prendre part à ce débat. Parce que, tout simplement, l'opinion publique est en attente, parce que le débat public est aujourd'hui polarisé sur cette question, parce que, on le voit, les sondages le montrent, un nombre important de nos compatriotes lui demande aussi d'intervenir, et parce que on est face à une question qui est récurrente dans la société française, parce qu'on a l'impression que cette question apparaît aujourd'hui, mais la question elle n'est pas nouvelle. Non, la question de la relation à la deuxième religion de France, parce que l'islam est la deuxième religion de France, est une question qui traverse le débat politique depuis maintenant 30 ans. Je rappelle que l'affaire des jeunes collégiennes de Creil, ça date de 1989. Oui, donc ce n'est pas un sujet récent, sauf que c'est un sujet qui s'est manifestement ossifié ces dernières années, parce qu'on a une situation internationale qui fait que ça a l'impact sur le débat public national, et puis parce que aujourd'hui, des questions se posent en effet sur la façon dont on peut articuler l'islam de France à la République et à la question de la laïcité.
Allez, on va revenir dans un instant sur ce qu'on a dit, ce qu'en ont dit les responsables du Rassemblement National, mais pour l'heure 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Justine Dinchet.
C'est une attaque odieuse, selon Emmanuel Macron, qui condamne avec fermeté ce qu'il s'est passé cet après-midi devant la mosquée de Bayonne. Un homme a tiré des coups de feu, deux personnes ont été gravement blessées. Le suspect, un ex-militaire de 84 ans, a été interpellé 20 minutes plus tard chez lui dans les Landes. Cet homme s'était présenté aux élections départementales de 2015 sous les couleurs du Front National. Indignation ce soir de Marine Le Pen, qui parle d'un acte inqualifiable, contraire aux valeurs de son mouvement. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en route pour Bayonne. Un fémur découpé avec un instrument, c'est ce que révèlent les premiers examens effectués sur le corps démembré de Sophie Le Tan. Pour l'instant, aucun lien n'est établi avec le suspect, Jean-Marc Rezer, indique la procureure de la République de Strasbourg. Seulement 3 TGV sur 10 en circulation demain sur l'axe atlantique. Même chose qu'aujourd'hui, toujours à cause d'une grève au sein d'un technicentre basé à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Une nouvelle date pour le Brexit. L'Union européenne laisse maintenant les Britanniques se mettre d'accord avant le 31 janvier. C'est 3 mois de plus que prévu. Les députés britanniques viennent de rejeter la tenue d'élections anticipées le 12 décembre prochain, comme le veut le Premier ministre Boris Johnson. 2 Français qualifiés pour le deuxième tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Après Jérémy Chardy cet après-midi, c'est Benoît Paire qui s'est qualifié ce soir en battant le Bosniaque Dzoumour en 2-7, 7-5, 6-4. Joe Wilfried Tsonga est en ce moment même sur le court. Il affronte le Russe Rublev.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
acte inqualifiable, attentat, a même tweeté Marine Le Pen. Ces crimes doivent être traités avec la sévérité la plus totale, ajoute la présidente du Rassemblement National. Le suspect était pourtant candidat FN et aux élections locales il y a à peine 4 années. Voici ce qu'en a dit tout à l'heure Nicolas Bay, eurodéputé du Rassemblement National. Il était l'invité du 1850 France Info.
J'ai pas d'informations sur ses motivations. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est évidemment condamnable. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce genre de méthode, ce genre de violence. Cette personne a été adhérente il y a quelques années, semble-t-il, du Rassemblement National.
2015.
Oui, il était un parmi les 8000 candidats que nous avons présentés aux élections départementales. Voilà, c'est une personne qui était dans nos rangs, mais qui manifestement n'avait pas du tout les mêmes idées que nous et a commis cet acte épouvantable aujourd'hui. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'avoir quelqu'un comme ça, qui ne partage pas nos idées ni nos valeurs et qui prend sa carte dans nos rangs.
Maïa Daboulos, le Rassemblement National cherche à clamper cette affaire.
Oui, ce que je peux comprendre. Cela dit, on ne va pas faire mine de découvrir aujourd'hui que le Rassemblement National, aujourd'hui le FNIR, est porteur de haine et d'islamophobie. Maintenant, de là, entre la haine et le passage à l'acte, il y a quand même un pas qui a été franchi aujourd'hui.
Jeannick Halimi.
Je suis d'accord avec...
Maïa Daboulos.
Excusez-moi. Je pense que l'erreur viendrait de penser que toutes les mises en garde qui sont faites depuis plusieurs années sur le champ politique et dans l'opinion publique et mises en garde contre l'islamisme et même le communautarisme seraient des foyers qui généreraient ce type de haine vis-à-vis de l'islam en général. Certains hommes politiques, j'entendais là sur votre antenne, tentaient à le suggérer. C'est-à-dire que les discours aujourd'hui de la part d'hommes et de femmes politiques de gauche, de droite, du centre, macronien ou pas, qui consistent à clarifier justement les choses, à faire en sorte qu'il y ait une meilleure intégration de l'islam dans la société et à et dans la République, et à stigmatiser véritablement, bien évidemment, les dérives en isme, salafisme et autres islamismes. Je pense que ça, c'est une façon, au contraire, d'élucider, de clarifier la situation et de dire, comme certains hommes politiques, notamment à l'extrême gauche, que ouvrir ou mettre sur la place ce débat-là suscite ce genre de acte de haine, de violence et de racisme. Je pense que ça, c'est une erreur politique et une erreur politique.
Arnaud Benedetti, sur le côté un peu déclenchant, on va dire, du discours politique.
Je sais pas. En tout cas, ce qui est frappant, c'est la communication très rapide, bien évidemment, du Rassemblement National et de Marine Le Pen, qui a tweeté très rapidement. Je crois que ça a été une des toutes premières à tweeter parmi les personnalités politiques pour, bien évidemment, se désolidariser et condamner, je veux dire sans ambiguïté, un acte qui est par nature condamnable. Donc, on voit bien que pour le Rassemblement National, il s'agit d'éviter qu'il y ait un amalgame entre l'un de ses anciens candidats lors d'une élection départementale et aujourd'hui ce qu'essaye de représenter le Rassemblement National, en tout cas, c'est ce que le Rassemblement National essaye de présenter comme nouveau visage politique. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, ensuite, le débat politique. De toute façon, je veux dire, il est normal que la question de la religion soit en débat. Je veux dire, c'est tout à fait légitime et il n'y a aucune raison que le fait religieux ne soit pas, de fait, l'objet d'un débat politique quand la question de la laïcité, quand la question de la République se pose pour toute religion, qu'il s'agisse de l'islam, du judaïsme ou du christianisme.
Sauf
donc en l'occurrence, ce n'est pas scandaleux. Ensuite, bien évidemment, on ne peut pas éviter, et c'est bien le problème, un certain nombre de dérives qui sont par nature condamnables, comme celle-ci, et qui sont manifestement aujourd'hui le fruit aussi, d'une certaine manière, d'un climat d'extrême tension qui règne dans le pays.
Alors, pour poursuivre ce que vous dites, y a-t-il un risque d'amalgame entre pratique de l'islam et terrorisme? On va aller au bout du raisonnement. Ne risquons-nous pas de stigmatiser une partie de la population? Écoutez ce qu'en disait aujourd'hui sur France Info à la radio Abdallah Zekri, président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, rattaché au CFCM, on va y revenir, et délégué général du Conseil français du culte musulman.
Je pense que la situation est très grave, parce que tous les maux de la France viennent des musulmans et de l'islam, pour certains hommes politiques qui, franchement, c'est leur fond de commerce. Nous, franchement, on en a marre d'entendre cela, on en a marre d'être stigmatisé du matin au soir, l'islam, les musulmans. Donc je pense qu'il faut raison garder, se calmer un petit peu. chaque fois qu'il y a une échéance municipale, c'est l'hystérie totale concernant les femmes et les musulmans.
Mariam Pirzadeh, est-ce que vous diriez, vous aussi, comme ce responsable hein, du CFCM, qu'il y a peut-être trop de discours, de stigmatisation d'une communauté religieuse?
Bah oui, là, on parle, je suis d'accord avec vous, on parle surtout de l'islam, on ne parle pas du judaïsme.
Oui, ce que disait Maya Boulos. Oui,
c'est exactement ça, on ne parle pas d'autres religions. Et effectivement, à la lumière des derniers sondages, le Rassemblement National s'est désolidarisé assez vite, a condamné très très rapidement, parce qu'effectivement, à la lumière des derniers sondages, on voit bien que l'électorat du Rassemblement National semble avoir un problème avec l'islam sur cette religion, sur les sorties scolaires. On voit bien que c'est cet électorat-là qui a les positions les plus fortes, sans surprise effectivement, puisque c'est aussi sur ce thème-là qu'ils ont surfé ces 30 dernières années, avec Marine Le Pen qui a un petit peu édulcoré le discours de son père, mais finalement l'électorat n'a pas forcément changé. Et on vit effectivement en ce moment une période qui est un petit peu, excusez-moi le terme est peut-être un peu fort, mais un peu moribonde, lorsqu'on écoute des femmes voilées, quand on regarde, voilà, elles commencent à s'exprimer en disant, voilà, écoutez ce qu'on a à dire aussi. Et elles se sentent aussi stigmatisées parce qu'elles portent un voile en sortant. Et avant, elles existaient aussi, ces femmes. Pourquoi, d'un coup, d'un seul maintenant, un débat se crée et on convoque à l'Élysée? Voilà, je pense que ce débat, c'est un débat à long terme, c'est pas un débat à court terme. Il fallait l'avoir et il fallait l'avoir dans la continuité, en tout cas.
Il va falloir du temps, Maya Boulos.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a aussi un élément à ajouter peut-être ici, c'est qu'il y a une véritable évolution qu'on peut observer dans la société sur la question de la laïcité, où aujourd'hui, quel que soit le clivage politique, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle ou l'âge, les Français considèrent que la laïcité est menacée. Et ce sentiment de menace fait que la définition même de la laïcité a évolué. Concrètement, hier, on pensait la laïcité comme un moyen de préserver ou de faire respecter la liberté de conscience. Aujourd'hui, on est passé de ça à faire en sorte que les religions ont le moins possible d'espace dans la vie publique et dans la société.
Dans le champ politique.
Dans également. Le champ politique, ouais. En particulier, évidemment.
Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Arnaud Benedetti sur peut-être une nécessaire prise de position, une parole, c'est ce que vous évoquiez à l'instant en public d'Emmanuel Macron sur cette question. On va y venir tout de suite. Pour l'heure, nous marquons une pause, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Justine Dinchet.
Laurent Nunez attendu à Bayonne ce soir, déplacement en urgence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Après des coups de feu cet après-midi devant la mosquée de Bayonne, une attaque odieuse condamne ce soir Emmanuel Macron. Cet après-midi donc, un homme a ouvert le feu, blessant grièvement deux hommes. Le suspect, âgé de 84 ans, a pris la fuite avant d'être interpellé chez lui dans les Landes. C'est un ancien militaire, ancien candidat Front National aux élections départementales de 2015. Deux enfants de 4 et 6 ans retrouvés morts poignardés chez eux en fin d'après-midi à Courcelles-lès-Lens dans le Pas-de-Calais. On ignore encore les circonstances de ce drame. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi avec Jean-Marc Rézère, déclaration de la procureure de la République de Strasbourg. 5 jours après la découverte du corps démembré de Sophie Le Tan dans une forêt, un fémur découpé avec un instrument a notamment été découvert. Le principal suspect, Jean-Marc Rézère, a toujours nié avoir tué cette étudiante strasbourgeoise disparue il y a un petit peu plus d'un an. Ils sont détenus dans un endroit sécurisé. Deux hommes ont été capturés lors du raid contre Abou al-Baghdadi, selon le chef d'état-major de l'armée américaine. Cet assaut a conduit à la mort du chef du groupe État islamique dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Syrie. Il s'appelle Kincaid Fire, en Californie, au nord de San Francisco. Un feu immense a déjà mené à l'évacuation de 180 000 personnes. Plus de 12 000 hectares ont brûlé depuis mercredi dernier et le feu continue ce soir sa progression.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, pour moi, c'est un attentat, a déclaré ce soir le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, lors d'une conférence de presse. Le maire de Bayonne, qu'évoquait tout à l'heure notre correspondante de France Bleu, Bayonne, Nathalie Bagdasarian, il ajoute « Bayonne est une ville de tolérance ». Il tient à le souligner, nous sommes sous le choc après ce grave incident, d'autant plus qu'ici, la communauté musulmane est un exemple d'intégration, déclaration donc à l'instant du maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray. Alors Emmanuel Macron, ce matin, a appelé le Conseil français du culte musulman reçu à l'Élysée avant ces événements, hein, bien sûr, à combattre aux côtés de l'État le communautarisme et l'islamisme. Sur ces questions, écoutez ce qu'il en disait lui-même, le chef de l'État, dans cet extrait d'une interview diffusée ce matin chez nos confrères de RTL.
Dans certains quartiers de la République, dans certains endroits de notre République, il y a un séparatisme qui s'est installé. C'est-à-dire la volonté de ne plus vivre ensemble, de ne plus être dans la République. Et au nom d'une religion, l'islam, en la dévoyant, de dire « je crois à un islam politique et nous allons vivre selon ces règles qui ne sont pas celles de la République ». Ce que j'ai demandé au gouvernement et que j'annoncerai dans les prochaines semaines, parce que c'est là ma priorité, c'est véritablement, dans l'éducation, la santé, le travail, les différents services, le public, de mettre tout en place pour lutter contre ce communautarisme.
Yannick Halimi, quel type de décision peut prendre un chef de l'État dans ce domaine, sachant qu'il y a eu plusieurs lois qui sont passées par là, et c'est un débat qui court, comme le rappelait Arnaud Benedetti, depuis de longues années.
Écoutez, si j'ai bien compris, j'ai compris trois choses. D'abord, de façon réitérée, parce qu'il l'avait dit notamment après l'attentat de la préfecture de police de Paris, le communautarisme est un sujet dont veut se saisir Emmanuel Macron, alors qu'il avait été relativement discret pendant la campagne et depuis le début de son quinquennat, c'est maintenant une chose officielle. Deuxièmement, il le dit aussi, ce n'est pas un sujet sur lequel on doit claironner, faire des effets de manche et des effets de tribune. Il utilise, on en parlait tout à l'heure, l'expression de bas bruit, qui est une assez belle expression, qui ne veut pas dire surtout pas mettre les choses sous la table ou sous le tapis, mais éviter les impulsions, les passions et des opinions publiques, médiatiques et autres d'ailleurs, ou politiques, qui pourraient s'enflammer. Donc il a l'intention de se saisir de ce dossier, de prendre du temps, nous disions tout à l'heure, prendre du temps pour l'étudier, et puis, si j'ai bien compris également, de s'attaquer par tous les bouts, par le sommet, avec une tentative qui prendra du temps, il le dit lui-même, d'organisation avec le CFCM, d'organisation de l'islam, qui permette à cette religion, vous le rappeliez tout à l'heure, de deuxième religion en France, à s'intégrer de façon pacifique, comme c'est évidemment l'intention des 99% des musulmans aujourd'hui. Et puis aussi se saisir, comme Emmanuel Macron le fait sur beaucoup de sujets, notamment l'écologie, je ne veux pas comparer les uns et les autres, mais de se saisir du dossier de façon extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'il allait s'approcher, faire une sorte de radiographie de ce qui peut se passer dans les sports, dans certaines salles de sport, enfin j'ai compris ça, dans les hôpitaux, lorsque par exemple...
Oui, du concret, quoi. Oui.
Du concret,
de la vie quotidienne.
Et puis peut-être préciser certains éléments qui restent soit du ressort d'un règlement intérieur qui finalement s'en réfère au directeur de tel ou tel établissement, et peut-être donc précisé par la loi, peut-être des choses, mais qui ne concerneront que l'espace public, que les services publics.
Justement, Mariam Pirzadeh, pour poursuivre ce que dit à l'instant Yannick Halimi, quand on voit que le Sénat examine demain une proposition de loi des Républicains sur l'interdiction du port des signes religieux lors des sorties scolaires, c'est la suite de la polémique d'avant, c'est une polémique, une loi, est-ce que nous sommes dans le concret ou dans la joute politique ?
Bah là, effectivement, on est à quelques mois des élections municipales, il y a quand même un enjeu, on
en parlait,
il y a des risques, enfin, la droite essaye de récupérer aussi ce dossier, oui, c'est risqué, surtout en ce moment, est-ce qu'il faut parler de cette loi, en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à régler, il y a des signes, notamment on parlait des signes, le conseil qui s'est réuni à l'Élysée avec Emmanuel Macron tout à l'heure disait qu'ils allaient faire des efforts pour mieux repérer des signes de radicalité, parce que, en fait, je pense qu'il y a... il y a vraiment un distinguo à faire entre l'islam et l'islamisme. Et j'ai l'impression vraiment qu'en ce moment, tout est mélangé, ça part dans tous les sens, il n'y a vraiment pas grand-chose de concret, de pragmatique. Donc est-ce qu'une loi au milieu de tout ce brouhaha va faire changer les choses? Je ne suis pas sûre.
Oui, Maya Daboulos,
oui,
du concret.
Oui, juste pour rebondir par rapport à ce que disait Yannick Halimi, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est assez révélateur de la méthode du président de la République, ce qui est en train de se passer ici. Au fond, depuis l'élection, tous les 6 mois, on annonce un grand discours sur la laïcité qui n'est jamais venue pour l'instant. Pourquoi ? Mon sentiment est que depuis le début et sur différents sujets, que ce soit sur l'éducation ou même sur les retraites, il laisse infuser le débat dans la société pour qu'il y ait un consensus sur le fait et un constat unanime sur le fait qu'il y a besoin d'agir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le communautarisme et sur la laïcité.
Arnaud Benedetti, pour conclure sur la question.
Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel il n'est pas du tout à l'aise, tout simplement, parce que, si vous voulez, il y a un problème avec sa majorité qui est, à mon sens, extrêmement divisée sur cette question-là. Et c'est ce qui rend difficile, finalement, la prise de parole et la prise de décision du président de la République. Autant sur les questions économiques et sociales, il arrive à faire tenir une majorité qui est à la fois une majorité de centre-gauche et de centre-droit, autant sur un sujet de ce genre, on voit qu'il a une difficulté à trouver un point d'équilibre. Il suffit de voir la différence entre les positions d'Aurélien Taché, qui est plutôt favorable à un certain nombre d'accommodements, et les positions de son ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui est plutôt sur une position, disons, j'allais dire républicain, classique, quasi assimilationniste, pour voir les difficultés que rencontre Emmanuel Macron aujourd'hui pour produire une parole qui soit une parole à la fois, j'allais dire, cohérente et audible pour l'opinion publique.
Allez, nous allons marquer une pause, 20h et 28 minutes sur France Info, pour la météo, pour le rappel de l'info, et on se retrouve, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite, la deuxième partie des Informés de France Info.
Les éditions Radio France présentent Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges ? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les Sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré coédité par France Culture.
France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
N'attendez pas beaucoup d'évolution pour la journée de demain. Nous allons retrouver un ciel très nuageux de la Bretagne à la région Poitou-Charentes, en passant par les Pays de Loire, de la région Centre à l'Île-de-France et jusque vers la Bourgogne-Franche-Comté. Les pluies associées seront généralement faibles et intermittentes. Elles seront un peu plus marquées vers la pointe bretonne, mais aussi vers le Jura. Dans les autres régions, le soleil sera un peu plus présent, parfois voilé par d'épais nuages d'altitude bien inoffensifs. À noter la présence de brouillard en matinée, principalement le long de la Garonne. Les températures en fin de nuit évolueront entre 7 et 16 degrés du nord aux plages méditerranéennes. Les maximales resteront contrastées entre nord et sud, toujours comprises entre 11 et 15 degrés dans la moitié nord du pays. Prévoyez 16 à 24 dans la moitié sud. Dans le détail, on attend au plus chaud de la journée 11 degrés à Cherbourg et Rennes, 12 à Rouen et Dijon, 13 dans la capitale comme à Lille et Nantes, 15 à Bourges. En revanche, le mercure affichera 17 à Lyon, 20 à Bordeaux, 22 à Toulon. Comptez 24 degrés à Toulouse ainsi qu'à Nîmes.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Chandiou.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Une attaque odieuse, c'est ce que dénonce Emmanuel Macron sur Twitter après les coups de feu qui ont fait 2 blessés graves à la mosquée de Bayonne. Un homme qui a tenté d'en incendier la porte a tiré sur 2 hommes de 74 et 78 ans. Le tireur présumé a été interpellé peu après à son domicile dans les Landes. Il s'agit d'un homme de 84 ans, un ancien candidat du Front National pour les élections départementales de 2015. Ce soir, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, réfute tout lien entre cet acte et le parti de Marine Le Pen.
La consternation et la condamnation sans aucune espèce d'ambiguïté de cet acte inqualifiable. Évidemment, à travers moi, c'est l'ensemble du Rassemblement National qui condamne cet acte absolument odieux, qui émane visiblement d'un individu de 84 ans qui avait porté nos couleurs il y a quelques années aux élections départementales, qui depuis avait quitté notre mouvement et qui avait, il faut bien dire, basculé dans autre chose, comme on a pu s'en apercevoir. Et il est inutile, je pense, de préciser, nous indiquons que nous n'avons rien à faire avec cet individu. Et évidemment, encore une fois, nous condamnons cela, mais pas d'amalgame, s'il vous plaît.
Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National. Ce soir, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se rend à Bayonne pour apporter son soutien à la communauté musulmane. D'après les premiers examens réalisés sur le corps de Sophie Le Tan, l'un de ses fémurs a été sectionné par un instrument, mais la procureure de Strasbourg souligne aujourd'hui qu'aucun lien n'est établi pour l'instant avec l'homme mis en examen, Jean-Marc Reiser. Il y a quelques mois, les enquêteurs ont retrouvé chez lui une scie sur laquelle des traces de sang de l'étudiante disparue ont été découvertes. Une importante saisie de drogue à Marseille, cocaïne, cannabis et MDMA découvert par les policiers pour une valeur de 2 millions d'euros. Plusieurs opérations ont été menées entre aujourd'hui et la semaine dernière dans plusieurs appartements. Dans la ville, le trafic de stupéfiants génère de sanglants règlements de compte. Le dernier remonte à dimanche. Seulement 3 TGV sur 10 circuleront demain sur l'axe Atlantique en raison d'une grève, indique la SNCF. Les liaisons entre Paris, Rennes, Nantes et Bordeaux seront les plus fortement touchées. Les députés britanniques disent non ce soir à la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre, un scrutin voulu par Boris Johnson pour mener à bien le Brexit. Mais il n'en démord pas. Le Premier ministre britannique indique qu'il présentera ce soir un projet de loi pour que le scrutin ait bien lieu, soumis demain au vote des parlementaires. Les pompiers de Californie luttent toujours contre plusieurs incendies, l'un au nord de San Francisco. Il a obligé plus de 180 000 personnes à évacuer leur domicile. L'état d'urgence est décrété. En tennis, Joe Wilfried Tsonga affronte en ce moment le russe Rublev sur les cours du Masters 1000 de Paris-Bercy. Pour le moment, 2 Français sont qualifiés pour le deuxième tour, Jérémy Chardy et Benoît Paire. Tout de suite, la suite des informés avec Jean-François Akili et ses invités.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Akili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Mariam Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24, avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, et qui publie Le progrès est-il dangereux? Vaste question. Un essai co-signé avec Catherine Bréchinac de l'Académie des sciences, publié aux éditions Humaine Science. Alors les événements évoqués lors de la première demi-heure de ces informés surviennent dans un contexte international marqué par l'annonce de la mort par Donald Trump hier soir du chef du groupe État islamique Aboubakar al-Baghdadi lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Voici ce qu'en a dit François Hollande, l'ancien président de la République. Il était invité des 4 vérités sur France 2 ce matin.
C'est un coup dur à cette organisation terroriste. Ce n'est pas encore un coup fatal. C'est un coup dur parce que c'était le chef. C'est un coup dur parce que c'était lui qui avait proclamé le califat, qui avait lancé ses opérations, bien sûr, en Irak et en Syrie, mais partout dans le monde. C'est un coup dur parce que l'organisation elle-même est en décomposition. Elle a perdu les territoires qu'elle contrôlait en Irak, en Syrie, mais ce n'est pas un coup fatal, parce qu'il y a toujours une disponibilité et il y a toujours des djihadistes qui sont présents en Irak et en Syrie.
Mariam Pirzadeh, vous qui êtes à France 24, vous validez ce que dit l'ancien président de la République François Hollande?
Oui, puis c'est vrai, quand on écoute le discours de Donald Trump, il n'a pas été très tendre avec les Européens. Il a surtout remercié les Russes, il a remercié du bout des lèvres les Kurdes, mais il a exprimé sa profonde déception envers les Européens qui ne, je cite, récupéraient pas leurs djihadistes qui étaient en Irak et en Syrie. Oui, effectivement, alors c'est une mort symbolique, mais alors Aboubakar al-Baghdadi est mort, son numéro 2 aussi, mais aucun doute sur le fait que des successeurs ont été nommés. On ne l'avait pas vu depuis 5 ans. Le groupe État islamique est certes n'a plus de territoire en Syrie, en Irak. Il en a dans le reste du monde, notamment en Afrique, où il est en pleine expansion. Et il y a ces cellules dormantes. Et il faut dire aussi qu'avec l'attaque turque sur le nord de la Syrie, ça va aussi libérer ces bombes à retardement, notamment les raids qui ont été opérés sur des camps de réfugiés, sur des camps de familles de djihadistes et sur des prisons où étaient les djihadistes du groupe État islamique.
Arnaud Benedetti, le groupe terroriste Daesh reste éminemment une menace mondiale.
Oui, il a une capacité de projection encore qui reste importante. Mais ce qui était intéressant dans l'intervention de Trump, c'était la façon dont il mettait, moi je trouve, ses pas dans ceux d'Obama sur le plan de la communication. C'est ce qui m'a frappé. Mais de manière très différente. C'est vrai que le style, c'est l'homme, comme disait Buffon. En l'occurrence, là, on a vu un président qui cherchait à travers, finalement, ce succès pour les forces spéciales américaines à, quelque part, disons, rattraper la position qui était la sienne, très contestée sur le plan international. international depuis le lâchage des Kurdes, ça c'était évident, et puis aussi sur le plan national où il est quand même, il faut le rappeler, même si elle a peu de chances d'aboutir, sous le coup d'une procédure d'impeachment. Donc, disons, quelque part, cette annonce arrive, disons, de manière très opportune pour Trump, à un an, faut-il le rappeler encore une fois, de la présidentielle aux États-Unis. Mais l'autre aspect, c'est que, vous savez, quand Ben Laden a été lui-même liquidé par les forces spéciales américaines, tout le monde pensait qu'on en avait fini avec Al-Qaïda. Non seulement on n'en avait pas fini avec Al-Qaïda, mais est né juste à côté Daesh. Donc aujourd'hui, l'idéologie existe, les troupes existent, les territoires ont été perdus, mais comme vous l'avez très justement rappelé, des cellules dormantes existent ailleurs sur un certain nombre de territoires de la planète.
Ah, et cette histoire-là n'est hélas pas terminée. Maya Daboulos, succès à l'international pour Donald Trump.
Oui, je dirais, je vais juste rebondir sur ce que dit Arnaud à l'instant sur la communication. Moi, je ne dirais pas qu'il s'est inscrit dans les pas, en fait, d'Obama. Je dirais même qu'il s'est inscrit en totale opposition en termes de communication, en tout cas. Obama, on s'en souvient, avait fait une intervention très solennelle de 9 minutes où il avait employé des mots assez mesurés. Là, on a un tweet qui dit « Ah, j'ai une super annonce à vous faire », etc. Donc, en fait, il a sorti tambour et trompette. Bon, c'est pas la première fois que Donald Trump nous habitue à quelques fantaisies. Mais enfin, il a quand même utilisé des codes et des moyens qui sont complètement en opposition par rapport à Obama. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir, et c'est très rare de voir sur des sujets aussi sensibles que ceux-là, un président remettre en cause la légitimité de son prédécesseur, puisqu'il a quand même très très clairement dit, Obama dit que c'était grâce à lui, c'est pas du tout grâce à lui, c'est grâce aux Navy Seals, etc. Donc c'est vraiment en totale opposition en termes de com.
Yannick Halimi, comme l'évoquait tout à l'heure Mariam Pirzadeh, la France, on va dire l'Europe, sont absentes de ce succès militaire, du moins dans le récit de Trump.
Oui, mais par exemple, au ministère des Armées ou des Affaires étrangères, ils n'ont pas du tout, il n'est pas question, vous voyez, de faire de la concurrence à qui aura été le plus fort et à qui rapporte le plus cette opération entre la France et les États-Unis. Pas du tout. Par exemple, la ministre, Mme Parly, qu'on a interviewée ce matin, ne veut pas du tout se mettre sur ce registre-là. De fait, la France n'a pas du tout participé à cette opération et de toute façon elle reconnaît que l'Amérique, même si elle commence à se retirer, garde des forces complètement 10 fois plus importantes que la France. Donc il n'y a pas du tout de rancœur, d'amertume par rapport à la présentation nationalité par nationalité de la part de la France. Je voudrais juste terminer vis-à-vis des États-Unis. Non, mais par rapport, pardon, Mayada, à tout ce qui vient d'être dit au-delà des cellules dormantes et puis bien évidemment de ce qu'on a appelé le terrorisme low cost où l'idéologie islamiste et salafiste se distille même par Internet sans qu'il y ait de cellules dormantes. On parle de terroristes en solitaire le plus souvent maintenant, aujourd'hui, malheureusement. Non, ce qui se pose aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la stratégie de Donald Trump. Ok, c'est une réussite, ce n'est pas encore une victoire. Elle est quand même extrêmement illisible. Et ce que demande en revanche la coalition internationale, où participent bien sûr la France et les Occidentaux, à laquelle participent la France et les Occidentaux, c'est à l'Amérique, au sein de l'OTAN notamment, et également au sein de l'ONU, mais d'abord au sein de l'OTAN, de clarifier ce que veulent faire les États-Unis dans cette zone, notamment au Levant, se retirer ou pas, croiser le fer avec la Turquie ou pas, défendre les Kurdes ou pas, etc. etc. Ouais. Et ça, en revanche, ça devrait être l'étape ultérieure pour essayer quand même de coordonner cette action des Occidentaux vis-à-vis du terrorisme de Daesh.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il compte en faire un élément de politique intérieure, puisque, comme vous l'avez sans doute entendu, il a prévenu les puissances étrangères et ses alliés avant, et sans en prévenir d'ailleurs les démocrates, ce dont ils se sont émus. Et c'est assez nouveau, c'est complètement différent de ce qui se faisait jusqu'à présent. Ne pas prévenir en fait, l'équivalent de l'Assemblée, en fait,
je suis pas sûr qu'aux États-Unis, pour ce genre d'intervention, le président des États-Unis soit obligé d'avertir au préalable le Congrès.
Non, mais c'est ce qu'avait fait Obama.
Oui, peut-être.
Il y avait trop de fuites, selon Donald Trump. C'est pour ça qu'il a préféré prévenir les Russes que le camp démocrate.
Non, Donald Trump, je ne sais pas, plutôt dans
avec lequel il entretient des relations houleuses en ce moment.
Allez, 20h41, pardon pour ce retard sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Justine Dinchet.
La République ne tolérera jamais la haine. Emmanuel Macron condamne avec fermeté l'attaque odieuse, dit-il, devant la mosquée de Bayonne. Un homme a ouvert le feu cet après-midi et fait deux blessés graves. Deux hommes de 74 et 78 ans touchés au bras et au thorax. Pour moi, c'est un attentat, assure ce soir le maire de Bayonne. Le suspect a été interpellé chez lui, dans les Landes. Cet homme, âgé de 84 ans, s'était présenté aux élections départementales de 2015 sur une liste du Front National. Le fémur de Sophie Le Tan a été découpé avec un instrument. Résultat des premières analyses sur le corps démembré de l'étudiante strasbourgeoise, retrouvée mercredi dernier en forêt. Et d'après la procureure de la République de Strasbourg, aucun lien n'est pour l'instant établi avec le suspect Jean-Marc Rézère. Pas d'amélioration demain sur l'axe atlantique, seulement 3 TGV sur 10 en circulation. Et toujours à cause de cette grève au sein d'un technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, la SNCF compte 200 grévistes sur 700 salariés. Une première victoire pour Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale. La justice a accepté aujourd'hui sa première demande de remise en liberté. Ça fait un mois et demi que le maire LR de Levallois-Perret est emprisonné. Pour l'instant, il reste derrière les barreaux en attendant l'examen d'un second recours qu'il avait déposé cette fois-ci après sa condamnation pour blanchiment aggravé. Résultat de la première journée du Masters Mills de Paris-Bercy, deux Français, Jérémy Chardy et Benoît Paire, qualifiés pour le deuxième tour. Joe Wilfried Tsonga est sur le court face au Russe Rublev et le Français a pour l'instant perdu son premier set.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Décidément, quand ça ne veut pas, eh bien, voilà ce que cela donne. Les députés à Londres ont rejeté aujourd'hui, ce soir, c'est un vote qui s'est produit il y a quelques minutes, la tenue d'élections anticipées le 12 décembre prochain, que réclamait le Premier ministre britannique Boris Johnson. En clair, il y a eu, pour faire le détail des votes, 299 élus qui ont voté en faveur de ce retour anticipé aux urnes. Il en fallait 434 pour que le chef du gouvernement britannique réussisse cette majorité qualifiée des deux tiers pour parvenir à ses fins. Il n'y aura donc pas d'élection anticipée. Faut-il s'indigner du comportement de ces parlementaires britanniques incapables d'en finir avec le Brexit? Non seulement Amélie Montchalin, la secrétaire d'État aux affaires européennes, dit non. Pas vraiment. Il est question peut-être de la souveraineté d'un pays qui s'appelle la Grande-Bretagne. Elle était sur France Info ce matin.
C'est un sujet qui nous concerne, nous Français, mais pas totalement. C'est un choix souverain des Britanniques. C'est pas à Paris, c'est pas à Bruxelles qu'on trouvera une solution et qu'on décidera pour les Britanniques. Vous savez, l'Europe s'est construite sur le fait que la souveraineté nationale était clé. C'est pour ça qu'on parle d'un état de droit. Donc c'est un choix souverain, c'est un référendum qui amène des négociations qui se sont produites depuis 3 ans. On travaille pour que ça soit organisé. Et je vous dis, on n'est ni dans l'ingérence, ni dans l'indifférence. Il y a un moment donné, il faut qu'on prenne en compte les faits politiques. Et donc, on a, nous, un objectif, un principe clair, c'est il nous faut de la clarté, il nous faut un scénario. Le temps pour le temps ne suffit pas.
Mariam Pirzadeh, nous sommes dans la diplomatie avec Amélie de Montchalin. Pas d'ingérence, dit-elle, mais est-ce qu'il faut faire également preuve d'une extrême patience avec cette affaire?
Je crois qu'il n'y a plus vraiment le choix, parce que c'est quand même le troisième report depuis le 29 mars dernier. C'est pas vraiment une surprise que les députés britanniques aient voté contre ces élections générales. En fait, Boris Johnson avait convoqué ces élections parce qu'il n'a plus de majorité au Parlement et il avait peur que, alors que le texte, l'accord qu'il avait trouvé avec Bruxelles avait déjà passé une première étape de validation, il avait peur que pour la deuxième étape de validation, que le texte soit en fait vidé de sa substance, que les députés britanniques pose trop d'amendements et du coup qu'il n'y ait plus d'accord. Pourtant, cet accord qu'il a présenté au Parlement britannique, c'était un petit peu sa fierté puisqu'il avait réussi à y inclure sa principale revendication, c'est-à-dire d'éviter le retour d'une frontière en dur entre les deux Irlandes.
Ah oui, il y a pourtant, il faut le préciser, Maya Dabulos, cet accord survenu avec les pays membres de l'Union européenne pour reporter la date butoir du Brexit au 31 janvier 2020. Alors, il y a un nouveau mot qui est sorti du chapeau, c'est la flextension, j'espère que je le prononce bien,
absolument.
À savoir que le Royaume-Uni pourra quitter avant.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose de cocasse, pour ne pas dire un mot désagréable, dans ce qui se produit avec la Grande-Bretagne aujourd'hui?
C'est complètement incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder l'opinion britannique aussi. Il y a une étude qui est parue dans le Times, qui a été réalisée quand même sur 4000 Britanniques, donc c'est quand même un échantillon assez solide, qui montre que les opinions se sont complètement radicalisées. La première preuve, elle est incroyable, c'est qu'il y a quand même une part importante de la population britannique qui accepterait le recours à la violence contre les parlementaires pour que ceux-ci votent en faveur du Leave ou du pour ou du contre le Brexit, mais en tout cas en faveur de l'opinion qui les concerne. Et deuxième élément de radicalisation très intéressant, c'est que 74% des partisans du Leave pensent que le fait de quitter Bruxelles est plus important que le fait de l'unification, l'union du royaume. Donc en fait, ils seraient prêts à une désintégration de leur propre pays pour échapper à Bruxelles. Donc il y a vraiment une radicalisation de toutes parts de l'opinion britannique qui en a marre, qui en veut aux parlementaires et qui en veut à Bruxelles d'un côté et qui en veut aux partisans du Leave de l'autre.
Alors il y en a un autre qui se radicalise, mais qui en veut aussi aux parlementaires, c'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique, puisqu'il l'a déclaré: nous ne permettrons pas que cette paralysie continue. Cette Chambre ne peut pas retenir plus longtemps en otage notre pays. C'est ce que dit Boris Johnson, qui a aussitôt donc annoncé le dépôt imminent, écoutez bien, d'un court projet de loi en vue d'élections anticipées à la date du 12 décembre. Arnaud Benedetti en a la sensation qu'on ne va jamais achever ce feuilleton du Brexit.
Oui, c'est vraiment le chemin de croix pour la plus vieille démocratie parlementaire du monde, indéniablement, que cette issue que l'on cherche à trouver pour un Brexit qui n'en finit pas, in fine, d'enflammer l'opinion publique britannique. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, sur la radicalisation. Moi, je pense qu'il y a une radicalisation générale dans un certain nombre de pays européens vis-à-vis du système de représentation. Alors, évidemment, au Royaume-Uni, ça prend un aspect qui est beaucoup plus incandescent du fait du contexte du Brexit, mais in fine, cette radicalisation contre les représentants politiques, c'est un phénomène aujourd'hui qui, quand même, on le voit, balaye une grande partie de l'Europe, et pas seulement le Royaume-Uni. Donc c'est un phénomène qui est intéressant, bien évidemment, à analyser, mais aussi inquiétant, parce que il faut jamais rappeler, quand même, que le système représentatif est la base des démocraties occidentales et des démocraties libérales. Sur le fond, Johnson, lui, bien évidemment, il a tout intérêt à aller aux élections, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les sondages qui sont faits montrent qu'il en sortirait vraisemblablement vainqueur. Donc on voit la stratégie qui est celle de Boris Johnson. Et en effet, le blocage que peuvent peut-être opposer les parlementaires risque in fine, là aussi, d'exaspérer encore plus l'opinion britannique et in fine peut-être de renforcer encore plus Boris Johnson dans son leadership sur la vie politique britannique.
Yann Calimi, dernier mot sur ce Brexit qui n'en finit pas. Est-ce que ce qui se passe abîme l'Europe aujourd'hui?
Bah oui, ça c'est sûr. De toute façon, tout élément et toute force centrifuge est de toute façon un élément de fragilisation d'une Europe qui n'en a pas besoin, dont les gouvernements sont déjà contestés pour la plupart en interne, sans parler de pays comme la Hongrie qui contestent fondamentalement l'Europe, mais tout en restant à l'intérieur. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et puis finalement, je ne sais pas si l'opinion publique britannique est agacée contre qui? Contre l'Europe, contre ses gouvernants. En tout cas, il y a un autre aussi élément qui risque d'être agacé, c'est l'Europe en elle-même, qui a quand même fait, et Emmanuel Macron aussi, qui au début extrêmement droit dans ses bottes, a finalement lâché du lest et a accepté de reporter.
Il n'en voulait pas, il ne voulait pas de
le Brexit, sous réserve qu'il y ait une légitimité, une explication à ce que ce soit reporté. C'est pour ça qu'il avait accepté le 31 janvier, en tout cas dans la forme, à ce que ce soit encore reporté, donc du 31 octobre au 31 janvier, à condition qu'il y ait des élections. Mais là, les Anglais, je ne sais pas s'ils sont victimes, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir que l'Europe mette un point final à cette déliquescence.
C'est ce qu'on se dit depuis des mois.
Mais là, l'Europe risque de perdre aussi de sa crédibilité et que donc toute histoire, bonne ou mauvaise, doit avoir une fin.
Avec un nouveau vote prévu à la Chambre des communes demain, mais ça c'est une autre affaire. 20h50 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Justine Dinchet.
Pour moi, c'est un attentat, déclare ce soir le maire de Bayonne. C'est une attaque odieuse, selon Emmanuel Macron. Réaction après des coups de feu cet après-midi devant une mosquée. Deux personnes ont été gravement blessées par balles au bras et au thorax. Le suspect a été interpellé un peu plus tard chez lui dans les Landes. C'est un homme de 84 ans, ancien militaire, ancien candidat Front National en 2015 lors des élections départementales. On ne connaît pas encore la date et la cause de la mort de Sophie Letan, mais la découverte de son corps démembré est un moment décisif pour l'enquête, a reconnu la procureure de la République de Strasbourg, et qui a précisé qu'aucun lien n'avait pour l'instant été établi avec le suspect Jean-Marc Rezer. Nouvel imbroglio au Royaume-Uni, les députés britanniques ont rejeté ce soir la tenue d'élections anticipées le 12 décembre, comme le veut le Premier ministre, mais dans la foulée, Boris Johnson a annoncé qu'il présenterait un projet de loi ce soir pour organiser ce scrutin. Le corps d'Abou al-Baghdadi a été immergé en mer, annonce ce soir un responsable du Pentagone. Le chef du groupe État islamique est mort lors d'un assaut américain dans la nuit de samedi à dimanche au nord-ouest de la Syrie. Un couvre-feu cette nuit à Bagdad. Aujourd'hui, des étudiants et des écoliers ont envahi les rues de la capitale irakienne et d'autres villes du sud du pays pour réclamer la chute du régime. Depuis le début du mouvement populaire au début du mois, environ 240 personnes ont été tuées.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous refermons ces informés avec un conflit qui s'installe, sommes-nous, dans les prémices de la mobilisation sociale contre les retraites du 5 décembre. La grève au technicentre SNCF de Châtillon va se poursuivre demain mardi. C'est ce qu'annonce la direction de la SNCF en fin de journée, qui a dénombré environ 200 grévistes sur les 700 salariés du centre. Grévistes qui appellent un rassemblement demain à 14h devant le siège de la SNCF. C'est à Saint-Denis. Les perturbations vont se poursuivre. Gwendoline Cazenave, la directrice des TGV Atlantique, a fait le point sur ce conflit social aujourd'hui.
Aujourd'hui, ce sont 80 000 clients qui devaient voyager sur TGV Atlantique et on pourra en faire voyager 35 000. L'ensemble des clients qui n'ont pas pu voyager ont été recontactés et se feront rembourser leurs billets absolument sans frais. Et on travaille de manière vraiment très très forte pour que jeudi puis dimanche, on puisse améliorer le nombre de circulations de façon à ce que les clients puissent rentrer de leurs vacances. Toutes les revendications qui ont été demandées par les agents en grève depuis lundi dernier ont été acceptées. Aujourd'hui, on est dans une situation où les agents demandent le paiement des jours de grève et ça, c'est pas possible.
Pas de paiement des jours de grève, donc, dit Gwendoline Cazenave. Maya Daboulos, c'est de la communication de crise. Hein. À un moment donné, il va falloir bien que les partis en présence se parlent.
Oui, absolument. Mais d'ailleurs, les partis se parlent. Après, Chacun est aussi dans la scénarisation. En fait,
on trouve un terrain d'entente, du moins.
Oui, alors ça va être compliqué. Je pense qu'on ne peut pas faire le parallèle, en fait, avec ce qui s'est passé en 1995 ou quelques jours après la présentation de la réforme, Juppé avait cédé, parce que la SNCF et les agents de la SNCF n'ont plus l'image qu'ils avaient à l'époque. À l'époque, la SNCF avait quand même encore une image extrêmement patrimoniale, statutaire. Ça faisait partie d'un... C'était un bien public, donc on était prêt à le défendre. Alors, à partir du moment où les Français ont le sentiment qu'on défend des intérêts corporatistes, ils lâchent, en fait, en termes d'opinion. Et là, on est vraiment à un moment charnière, je pense, où l'opinion peut basculer, surtout en période de vacances scolaires.
Alors, Jannick Halimi, interrogé sur cette question du 5 décembre, Emmanuel Macron, toujours sur RTL, a dit « Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de ces blocages, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Il semble être prêt au bras de fer. »
Je suis pas sûre, voyez-vous, parce que là on est avant cette journée qui, selon certains, pourrait faire un flop, alors que beaucoup d'entre nous estiment que, au contraire, ça risque de monter en puissance et que risque même d'avoir une convergence des conflits avec le personnel soignant, peut-être l'éducation nationale, les policiers et la fonction publique en général. Bref, mais non. Alors pour répondre à votre question, Jean-François, il y a les propos, il y a la réalité, comme le disait Mayada. On discute, on négocie. Ça, c'est clair, net et précis, en tout cas pour les organisations syndicales qui veulent bien se déplacer. Après, c'est comme la CGT ne le fait pas toujours. Après, on peut estimer qu'il n'y a pas assez de grains à moudre, mais en tout cas, le gouvernement est dans la négociation, dans la concertation. Il le dit, et en tout cas, dans la coulisse, il le répète, il est hors de question de faire comme Alain Juppé, effectivement, en 95, mais il est hors de question aussi de le faire comme avec il y a un an et demi, avec la réforme de la SNCF. Eux-mêmes soulignent qu'on ne peut pas traiter la réforme de la retraite comme la réforme de la SNCF. La retraite, c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué parce que toutes les personnes concernées ont des droits acquis, ont déjà cotisé. Donc on ne peut pas faire table rase et dire à partir de telle date, la réforme doit s'appliquer. Donc le gouvernement est prêt à prendre son temps. Il n'est pas du tout, on le voit d'ailleurs, certains même disent que la réforme risque d'être complètement enterrée. Veut prendre son temps, ne veut pas aller au bras de fer, et la tension, en tout cas, n'est pas destinée à être alimentée par le gouvernement. Mais, dernier point tout de même, beaucoup d'éléments sont spontanés, de contestation sont spontanés et sont déclenchés hors des organisations syndicales. C'est le cas de ce qui se passe sur la ligne du TGV Ouest.
Pour conclure, Mariam Pirzadeh, risque d'embrasement, disent certains, pas sûr en fait, il faut avancer pas à pas, c'est ça, il faut négocier.
La réforme des retraites, c'est un peu la réforme non réformable. Quoi. C'est tout... On pense effectivement à Alain Juppé. Et la date du 5 décembre, elle n'est pas choisie au hasard, parce que les débuts des grèves en 95, c'était un 5 décembre. Donc c'est une pression psychologique aussi pour Emmanuel Macron, qui lui indique qu'il ne va pas lâcher. Mais alors à partir du 5 décembre, c'est une grève illimitée. On se souvient qu'en 1995, il y avait très très peu ou pas de services publics qui marchaient. Et au bout de 10 jours, effectivement... Alain Juppé avait lâché, donc ils espèrent effectivement ce dénouement. Avec
mot de la fin, Arnaud Benedetti.
C'était au bout de trois semaines. Cinq semaines. Mais la différence avec 95, c'est que, en effet, l'opinion publique soutenait les cheminots, mais soutenait les cheminots par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, elle reprochait au gouvernement, il faut jamais l'oublier, la situation de blocage dans laquelle il s'était enfermé, notamment du fait de l'attitude d'Alain Juppé et du fameux droit dans ses bottes. Aujourd'hui, quand même, il y a une bataille de l'opinion qui est aujourd'hui nette entre le gouvernement et les syndicats, mais il y a quand même un petit sondage qui est intéressant, c'est sur le droit de retrait. J'insiste là-dessus, 52% des Français ont jugé légitime ce droit de retrait. Ça veut dire que la bataille de l'opinion pour les syndicats n'est pas forcément perdue.
La une de la revue politique et parlementaire, Arnaud.
La science à l'épreuve de la société, et on commémore le 80e anniversaire du CNRS, qui est né en octobre 1939.
Et votre ouvrage, Le Progrès est-il dangereux, avec beaucoup de thèmes assez intéressants. Les fake news, l'intelligence artificielle, les écrans, aïe aïe aïe, la communication, etc. Jeannick Halimi, la une du Parisien.
La SNCF.
Et voilà.
Voilà, point de suspension.
Vous avez tout dit. Merci à tous les quatre, Mariam Pirzadeh, Marianne Boulos, Jeannick Halimi et Arnaud Benedetti d'avoir participé à ces informés. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition sur France Info. Bonne soirée.